Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture. Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, dénomination sur laquelle on reviendra plus tard dans l'émission. En ce moment, à 18h, il y a une manifestation à Notre-Dame, si je ne me trompe pas. Donc si vous ne pouvez pas y aller... Restez au moins pour écouter cette émission. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Pauline de Patriarchie. C'est une association à militantes grenobloises créée en 2021. Et c'est au travers d'un magazine satirique et décalé ludique que Patriarchie aborde des thématiques engagées. Leur objectif, c'est de démocratiser et rendre accessibles les questionnements autour des luttes sociales contemporaines au plus grand nombre. Et nous sommes également en compagnie de Floriane de la Maison des Femmes, qui accompagne les femmes confrontées à des violences et aux conséquences sur leur santé. Leurs actions sont diverses, suivi thérapeutique, information, accompagnement sur les moyens d'aide et protection, et on en parlera plus en détail plus tard dans l'émission. Et je suis aussi en co-animation avec Sana de News FM.
Oui, bonjour Radio Campus, bonjour Liam, tu vas bien?
Ça va, et bonjour à Pauline et bonjour à, bonjour
à, bah quand même.
À Floriane.
C'est notre journée. Hein. Ah, salut.
En tout cas, c'est un plaisir d'être là, ouais, surtout à cette occasion. Merci.
Yeah! Yeah!
Can it beat?
Sugar track, yeah.
Rule number one. Don't worry about it, bitch, you've never been in your place. Always moving silence, never question your faith. Always checking on your niggas, gotta make sure they straight. If I'm getting money, then you know we all gotta play. Since a baby in a tummy, mama knew I was great. They can play me like a dummy, they know what not to take. Fuck these niggas, cause the money, only thing I'ma take. Time is precious, that's the only thing I try not to waste. She hate cause I'm up and you can tell on her face. I've been eating so much, I've been saying my grace. When the times was rough, I would look up and pray. Thank God I ain't have to smack a bitch today. Fucking God, smack a bitch today. Thank God I ain't have to smack a bitch today. Yeah, smack a bitch today. Thank God I ain't have to smack a bitch today. Yeah, whoa. Smack a bitch today. Thank God I ain't have to smack a bitch today. Huh? Smack a bitch today. Thank God I ain't have to smack a bitch today. Rolling up OG when I'm smoking my J. New car too fast, so I'm winning the race. Blast off fast car, cool breeze in your face. Don't hate on me, bitch, stay in your place. You rap about an Audi too much. Because my Audi paid off, bitch, hush.
Shut the fuck up.
Why is she be yelling so much? If I see you in the streets, bitch, your ass is done. I don't need your opinion. Do what I fucking want. You such a fucking chump. Pockets all swole lump sum. Damn, bitch, you a fucking bum. See you, your ass is done. Thank God, man. Thank God. Whoa. Catch a case. Punch that bitch right in the face. Oh. Hey. Yeah. Sugar trap.
Et nous sommes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8. Pauline, est-ce que tu peux nous présenter l'association Patriarchie, comment est née l'association, son histoire, etc.
Avec plaisir. Du coup, Patriarchie, c'est une association qui existe depuis 2021. Et à la base, elle est née d'une expo donc, qui s'appelle Patriarchie Magazine, que moi, j'ai démarré en 2019 maintenant, parce qu'à la base, je suis plutôt illustratrice. Et en gros, cette expo, elle est très satirique et en gros, elle questionne un peu sur la place qu'on réserve aux femmes dans nos sociétés, avec pas mal d'humour noir. Et en fait, c'est le fait que c'est la réception en fait de cette expo, notamment auprès des hommes et notamment auprès de publics qui étaient un peu éloignés de ces sujets-là, voire un peu réfractaires. Et voilà, le fait que ben ils le prennent avec humour, que eux-mêmes se questionnent en fait sur certains sujets, qu'ils étaient débats entre eux. Tout ça, ça a amené aujourd'hui à la création d'une association qui a une centaine d'adhérents, une quinzaine de bénévoles par an. Et puis donc nous, on a cette expo qui est aujourd'hui itinérante. On expose dans plein d'endroits, on s'en sert pour faire des temps de médiation. Donc voilà, pour sensibiliser différents publics, des jeunes, des moins jeunes, un peu voilà à cause d'égalité femmes-hommes, de violence, etc. Et puis on a une douzaine d'ateliers qui sont des ateliers de pratiques artistiques, culturelles ou sportives. Là, par exemple, le dernier atelier qu'on avait, où j'étais d'ailleurs chez nos amis News FM pour en discuter, c'est l'atelier twerk. Donc voilà, l'activité, c'est du twerk. Donc voilà, ça peut être vu comme quelque chose d'un peu superficiel, un peu rigolo. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler d'afroféminisme. Donc tu as toute une partie, en gros, plutôt théorique, où nous, on va expliquer un peu c'est quoi les origines de cette danse, qu'est-ce que ça signifie l'afroféminisme, pourquoi ça peut être vu comme de l'appropriation culturelle, quel est le regard qu'on peut poser sur des corps noirs, etc. Donc voilà, nous, c'est plus ces notions-là qui nous intéressent, mais qui ne sont pas toujours faciles à amener ou à contextualiser. Donc on les contextualise avec une activité sympa. C'est un peu le délire de l'asso, c'est trouver un angle un peu sympa, un peu décalé, pour donner envie aux gens de s'intéresser, notamment les gens qui à la base sont pas du tout intéressés. Donc voilà, c'est un peu notre modèle.
Et du coup, vous prenez un angle décalé pour sensibiliser en fait, pour éduquer, sensibiliser.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, quoi. Et donc c'est vrai que c'est des thématiques où on se rend bien compte que on les considère très féminines. C'est vrai, le féminisme, les questions de violence faite aux femmes, c'est un problème de femmes. Quand nous, on n'a pas forcément cet avis-là, et on pourra en parler plus amplement avec Floriane, sur le fait que si on veut prendre le problème à la source, il faut que tout le monde, en fait, y mette sa pierre à l'édifice, et notamment les hommes qui sont pas en reste, quoi.
Est-ce que vous avez d'autres missions ou actions que vous menez ?
Notre action principale, on va dire, c'est la sensibilisation, et surtout, c'est développer des outils qui nous permettent d'aider à sensibiliser. Donc en gros, on essaie de développer des outils pour s'adapter à tous les publics, voilà, que ce soit donc à travers les ateliers, et puis après des événements, on va dire, un peu plus festifs, par exemple. On a un format plutôt ciné-débat qui s'appelle les soirées pyjama, où pareil, toujours, c'est trouver un peu un angle sympa, et à travers la pop culture, à travers un film, c'est s'intéresser un peu aux injonctions, aux biais, aux discriminations qu'il y a dans la pop culture, qui, gentiment mais sûrement, nous arrivent après à des situations de violence. Donc voilà, on fait ça, des formats un peu festifs, on fait pas mal d'interventions dans des lieux jeunesse, et là, on s'occupe pour 2026 de préparer pas mal de choses pour les pros, pour les entreprises et les collectivités. Donc pensez à nous.
Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que Patriarchie, en fait, moi, je suis là aujourd'hui à l'occasion de cette journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. En tout cas, j'ai l'impression que Patriarchie, tous les jours, et elles sont dedans, en fait. Elles font ça tous les jours, en fait. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'était juste ça.
Et est-ce que tu sais comment c'est perçu par les gens extérieurs ?
L'assaut ?
Ouais, comment l'asso elle est perçue par les gens extérieurs, enfin même l'asso, les actions, même le magazine aussi, comment c'est...
Nous on a quand même, ça fait 4 ans du coup qu'on fait pas mal d'actions sur Grenoble, donc je dirais qu'on a quand même une bonne réception. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens quand même qui nous connaissent, et en général on a plutôt une bonne réception. Après c'est vrai que parce qu'on choisit un angle qui est un peu différent, parce que voilà, on cherche justement à désacraliser certaines choses. Nous, quand on a lancé l'asso, la plupart des bénévoles qui sont des jeunes femmes qui nous ont rejoints, leur première chose, c'était de dire « Ah, mais j'avais jamais rejoint une asso parce que je me sentais pas légitime à rejoindre une asso féministe. » Ce qui est quand même dommage, parce que si c'est pas les jeunes femmes qui se sentent légitimes à rejoindre des assos féministes, ouais, on n'est pas dans la panade, tu vois. Donc, en gros, l'idée, nous, c'est un peu de dire « C'est pas grave, si c'est pas parfait, c'est pas grave, tu peux venir. » Mais du coup, à l'inverse, ça fait que parfois, on peut être, je pense, pris de haut par certaines instances, certaines, effectivement, parce que voilà, on va utiliser un mot qui est, on va vulgariser les termes, on va voilà faire des actions comme un atelier twerk où les gens se disent mais c'est n'importe quoi, etc. Nous, ça nous intéresse cette première réaction parce que ça crée ça suscite de l'intérêt. Tu vois, le c'est n'importe quoi, bah je vais regarder un peu ce que c'est. Mais après, il y a des gens qui vont pas plus loin et qui font juste scandaliser. C'est une minorité en vrai. Mais ouais, des gens, c'est arrivé, c'est n'importe quoi, ou nous dire les affiches, ouais, c'est hyper sexuel, naninana. Moi, ma réponse, c'est que c'est toujours moins pire que la vérité et que la réalité que le monde. Moi, c'est un dessin, au pire, avec une meuf à poil. Voilà, c'est pas la violence, elle est pas là en fait, elle réside pas ici. Nous, on essaie de dénoncer ça. Après, une fois, on exposait la fête des tuiles et il y a un gars qui avait l'air un peu bourré quand même, mais qui a essayé de brûler une de nos affiches avec un briquet, quoi. Donc les réactions sont
ah oui, c'est du terrorisme.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, quoi.
Ouais, c'est ça, c'était une ambiance, quoi.
Il était en mission, quoi.
Ah ouais, il était avec son petit briquet là.
Mais t'as dit un truc qui est très intéressant quand même, Pauline. Tu dis cette première réaction, tu vois, c'est ça. Vous, c'est quelque chose qui vous capte tout de suite. Vous dites pourquoi, tu vois. Est-ce que le fait de voir aussi que ça choque, en fait, il y a des moments quand même, tu vois. Moi, je me rappelle la première fois avant que vous veniez en interview sur News FM, il y avait un stagiaire, Tiliane. Hein, je ne sais pas si tu écoutes Radio Campus, mais tu vas écouter cette émission sur les ondes de News FM également. Après, je lui ai dit, bon, voilà, là, il y a Patriarchie qui vont venir et tout. Du coup, tu peux aller sur leur site internet, tu regardes un petit peu, tu vois. Bon, comme c'est un magazine, tu vois, un peu satirique, des trucs comme ça. Il a vu des filles avec des soutiens-gorge et tout. Il me dit, oh, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais il y a les filles, tu vois leurs trucs et tout. Non, moi, je pose pas des questions, tu vois. Au début, c'est ça qu'il m'a dit.
Ouais.
Mais quand vous êtes arrivé et qu'on était en pleine discussion, je lui ai même pas demandé. Hein. Tout de suite, il s'est mis à poser des questions et tout. À la fin, il me dit, ah ouais, c'est très intéressant. Je savais pas que c'était comme ça. Donc moi, je pense aussi, cette première réaction, tu vois, c'est quelque chose qui prouve quand même que, voilà, les gens, en tout cas, tout le monde n'est pas encore prêt à ça, en fait. Donc c'est d'où l'intérêt de creuser cette question et d'aller encore plus loin dans votre démarche, en fait, tu vois.
Ouais, carrément.
Mais c'est vrai que c'est bien que ça, bah, ça amène quand même les gens à se questionner, mais avec cette première approche-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi d'avoir créé ce magazine? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que...
Bah, moi, à la base, en fait, c'est assez intéressant parce que moi, à la base, je ne viens pas du tout du milieu associatif. J'ai jamais même fait partie d'une association avant. Donc, ce n'était pas du tout mon but. Moi, j'ai vraiment fait des dessins. Donc, à la base, il y en avait trois, les premiers numéros, entre guillemets, de Patriarchy Magazine, qui, du coup, n'est pas un vrai magazine, mais voilà. Et en fait, on m'a proposé, en fait, les gens ont bien aimé, on m'a proposé d'en faire une expo, du coup, de faire 10 numéros de plus. Et donc, on a fait le vernissage de l'expo, etc., etc. Mais moi, à la base, il y avait plutôt une volonté de catharsis, en fait. C'était plus que moi, je subis beaucoup de choses en tant que femme, notamment pas mal de harcèlement de rue qui est... C'est très frustrant. Parce que t'as pas de bonne réponse en fait au harcèlement de rue, si t'as pas envie de te faire frapper en plus, de déjà te faire emmerder. Donc c'est très compliqué parce que t'es vachement spectatrice, passive, et en fait pas mal de fois dans ma condition de femme. Donc là c'est vraiment une manière aussi pour moi déjà de voilà, juste m'exprimer sur le truc qui me pesait énormément. Et après toute l'assaut au final je me rends compte c'est une manière pour moi aussi d'être vachement plus active et de faire quelque chose. Nous à Patriarchy c'est vrai qu'on est très concret, on est une petite assaut et pourtant on essaie de faire un truc, une action par mois. Voilà, on fait des vrais événements, on fait des vraies choses en fait. On évidemment on réfléchit, on dialogue, mais on est dans l'action. Et je pense que ça peut être vachement salvateur quand t'as pas cette position-là dans la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, c'est tu subis, t'arrives des trucs et puis tu dois gérer. Donc gérer bien, gérer en mal. Mais il n'y a pas ce truc où tu peux toi-même prendre les devants, toi-même faire des choses, riposter. Et puis le faire en plus dans un environnement un peu bienveillant où il y a d'autres personnes qui pensent comme toi. T'as pas besoin de te justifier constamment voilà, sur ce qui t'arrive, sur ta existence. C'est quand même c'est difficile. Je pense que des fois, on on en parle aujourd'hui, mais cette banalisation des violences, elle commence par là aussi. C'est qu'au final, on a normalisé le fait qu'on doive se battre pour exister. Mais je pense aux femmes et à d'autres populations. Hein. C'est cette idée de... Ouais, tout le temps, constamment se faire des efforts, se regarder, ne pas pouvoir juste être soi-même, quoi.
Ouais, tu veux pas juste être là et vivre, quoi.
C'est ça. Ça, c'est juste être
tranquille, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Tranquille. Ok. Mais je me permets, Liam. Pauline, mais vous, tu l'as dit, hein, par exemple, la première réaction, tu vois, d'une personne, d'une femme qui subissent une violence, tu vois. Je sais pas, vous répondez quoi? Quelle est la réponse, en fait, pour répondre, je sais pas, à un acte de violence dans la rue, je sais pas, quelqu'un il te parle mal ou qui t'appelle, je sais pas, tu dis pst, pst, par exemple, ouais. Tu vois, il y a des gens qui, bon, il y a des gens qui pensent ça aussi, c'est une violence. Peut-être, c'est pas, en tout cas, c'est pas beau d'appeler une personne comme ça, non. Tu vois, tu le connais pas, tu la c'est connais sûr. Pas et elle est devant toi et tu dis hey, pst, pst, tu vois, le fait de pister. Donc, toi, quelle est la réponse, tu vois, adaptée à ce genre de situation?
Tu vois, malheureusement, et j'ai beaucoup d'expérience sur le sujet parce que je ne rajeunis pas, je sais, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, c'est ça en fait le problème, c'est que. Ça dépend de ta personnalité, ça dépend de comment tu te sens, ça dépend est-ce que tu es entouré, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tu te sens en sécurité. C'est ça aussi, c'est que souvent, comme je disais déjà, quand je suis dehors, je suis dans un point A, un point B. Ça d'ailleurs, les chiffres le montrent bien, que les femmes, quand elles sont dans l'espace public, c'est pour se déplacer. Nous, on n'est pas en chill, tu vois. Ça aussi, tout ça, c'est toute une différence de comment on vit la vie. Hein. C'est-à-dire que vous, tu vois, tu peux sortir, ouais, bah je vais voir. Non, moi, je dis que je sors, je vais aller de là à là. Et donc, quand quelqu'un vient me déranger, voilà, quand un homme, il vient me parler, etc., et pas pour me demander l'heure, des fois, t'as pas le temps. J'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi parce que déjà j'ai un rendez-vous, je suis peut-être en retard. Puis peut-être j'ai pas l'énergie, tu vois, de se dire que là je vais me prendre la tête avec toi. Peut-être que je vais me faire agresser ou peut-être mieux, je vais me faire agresser verbalement. Le truc classique quand même des hommes qui viennent t'approcher et que tu dis non, merci, ça m'intéresse pas, c'est ah bah de toute façon t'es dégueu. T'es dégueulasse, t'es moche, patati patata. C'est aussi, c'est dur à vivre. Hein, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé avec mon copain par exemple, tu vois, qui va vouloir me défendre une fois. Il y a un gars machin, il est là, il me défend entre guillemets et le gars il se met à s'en prendre à moi. Tu vois, à dire en pleine rue, de toute façon, ta meuf, elle est dégueulasse. Tu sais, des trucs comme ça. Et c'est violent. Tu vois, moi, j'ai rien demandé à personne. Violent, ouais. Et en fait, c'est hyper. Et même ça, tu vois, pour lui, j'ai dû lui faire comprendre qui t'aide, en fait. Est-ce que tu m'aides, moi? Tu vois, parce que moi, ça m'a pas aidé, là, dans cette situation. Je comprends que toi, dans ton éducation aussi, d'homme, on dit, il faut, tu vois, protéger les femmes, être un peu ce chevalier, tu vois. Oui, mais en fait, dans la situation, ça a juste créé un truc où moi, je suis encore plus mal à l'aise, etc. Ouais. Tu vois, c'est un peu la merde. Hein.
Toi, tu penses que. Moi, je pense que la réaction de ton copain, ça a été bien, tu vois. C'est comme, genre, lui, il s'est fait agresser par une fille aussi.
Oui, ça part d'une bonne volonté.
Voilà. C'est comme, genre, lui aussi, il subit une violence, je sais pas, à travers une fille et tout. Et toi, tu viens, tu le défends, tu vois. Ça, je crois que c'est l'instinct d'un côté. Après, ça dépend de comment on les interprète aussi, des fois, tu vois.
Mais
je pense
sûr.
Quand même, voilà quoi. Je ne dis pas qu'il a joué son rôle, genre le mec, il doit défendre la femme. Mais on est ensemble, moi je suis avec quelqu'un, c'est une amie ou un ami. Je vois quelqu'un l'emmerder comme ça, je ne veux pas laisser faire.
Je
ne
dis pas qu'il a mal fait, je dis que si tu veux, après tu vois, lui, ça l'a énervé. Oui. Donc tu vois, il se prenait la tête avec le gars, mais le gars, il ne s'en prenait pas à lui, il s'en prenait à moi. Tu vois, il ne dit pas, il n'insultait pas lui, il insultait moi. Tu vois, donc moi en plus, du coup, j'ai rien à voir dans le truc où je suis à côté de deux mecs qui s'embrouillent, soi-disant c'est pour venger mon honneur, alors que moi je suis en train de m'en prendre plein la tête, tu vois. Donc c'est un peu c'est spécial, c'est quoi, si tu veux, comme situation. J'ai pas de bons conseils à donner en tout cas. Mais en vrai, c'est souvent c'est utiliser son instinct et son instinct de survie en tant que femme aussi. Tu le développes hein, des années, et voilà, tu sais ce que lui, ça vaut le coup que je lui dise un truc où il va me sortir un couteau. Enfin, la vérité, tu vois, tu sais pas, ça peut être un peu des fous, quoi.
Non, moi, je fais des doigts d'honneur et je recommande pas du tout. J'ai failli me faire taper plus d'une fois.
Ah ouais.
Donc, ne le faites pas.
Ok.
Mais ça fait du bien. Oui.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a pas de, il y a pas de guide pour réagir, quoi. C'est selon la personne qui est en face de nous, quoi. Et du coup, on parlait de harcèlement de rue là. C'est une des formes de VSS qui existe. Et Floriane, j'aimerais te demander si tu pouvais nous définir ce que c'est les VSS.
Oui, alors on peut parler de VSS ou de violence faite aux femmes, on y reviendra, mais l'intérêt de VSS, c'est que ça inclut les minorités de genre. Et dans violence sexiste et sexuelle, il y a deux termes, sexiste et sexuelle. Les violences sexuelles, en gros, ça va être tout ce qui désigne des actes à connotation sexuelle commis sans consentement de l'autre personne, donc pas surprise, menace, contrainte, etc. Et les violences, donc ça va du voyeurisme au viol. Le sexisme, de façon générale, c'est tous les actes commis à l'encontre d'une personne en raison de son genre. Et là, on peut juste parler d'une petite blague à des choses beaucoup plus désagréables.
Mais en fait, il y a vraiment une. Enfin, comment dire, pas une échelle, mais une sorte de pyramide des VSS, je sais pas comment dire.
Ouais, c'est ça.
Enfin, ouais.
Et il y a un lien entre... Ce terme, il est intéressant parce qu'il fait le lien entre sexisme et violence. C'est que les violences sexuelles, elles sont forcément sexiste.
Ouais. Et qu'est-ce que ça représente les VSS ? Enfin, c'est comment elles se manifestent ?
Eh ben, elles se manifestent de façon assez diverse parce que ça va du harcèlement de rue au viol, à l'inceste. Et ces violences-là, elles sont présentes dans notre société. On va probablement vous parler de continuum des violences. Mais ces violences, elles se manifestent principalement à l'encontre des femmes. Il y a des hommes qui sont victimes de violences sexistes. On dit que, par exemple, les violences sexuelles sur les jeunes garçons, on peut considérer ça comme une violence sexiste. Mais dans notre société, dans les sociétés occidentales, elles se manifestent majoritairement à l'encontre des femmes et des filles. Les statistiques sont assez claires, hein, sur les violences sexuelles. Je crois qu'on est à plus de 90% de violences sexuelles commises à l'encontre des filles, et les auteurs sont à 98% des hommes. Donc il y a un aspect genré de la violence, à la fois dans qui les subit et dans qui les commet.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est appris aux garçons et aux hommes ? Enfin, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de leur éducation ?
C'est une question difficile. Ça dépend des points de vue. Ce qui est certain, c'est que, enfin, si on regarde les faits, c'est indéniable qu'il y a des violences masculines commises à l'encontre des femmes. Et donc, on a en droit de s'interroger sur qu'est-ce qui, dans notre société, pousse les hommes et les jeunes garçons à commettre ces violences-là. Alors, il y a probablement un aspect culturel à ça. Moi, je ne pense pas que les hommes soient des êtres violents, que la violence soit innée. Je pense que c'est quelque chose d'acquis. Et d'ailleurs, il faut penser comme ça, hein, parce que sinon, c'est ultra déprimant et on s'en sortira jamais. Donc je pense qu'il y a quelque chose, probablement dans notre culture et dans l'éducation, qui pousse les hommes à se sentir en droit de commettre des violences contre les femmes. Ça peut, un indice, c'est probablement la façon dont on considère les femmes dans notre société, et notamment leur objectivisation. Tu parlais tout à l'heure de Patriarchy Magazine, qui peut choquer avec des images de femmes un peu dénudées. Moi, ça m'interroge que ça choque sur un magazine fictif, mais que ça ne choque personne dans les arrêts de bus. Le nombre de publicités à la télé...
Il y en a énormément.
Dans les arrêts de bus où il y a des femmes dénudées, alors que c'est absolument pas le sujet. Enfin, vendre des voitures avec une femme dénudée...
C'est un autre débat aussi, Floriane, parce que des fois, quand même, les femmes dénudées sur les arrêts de tram, en général... Tu vois, c'est des femmes qu'on appelle des mannequins, tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas été fait en dehors de leur consentement, tu vois.
Bien sûr.
Alors que, je sais pas, pour moi, d'un côté, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que nous, on se bat pas pour les femmes, mais on se bat pour les droits des êtres humains, comme tout le monde, en fait. Donc, voilà. Mais ces personnes, en fait, c'est les femmes. Et, par exemple, le fait qu'il y a... Sur un arrêt de tram, il y a des publicités, les femmes dénudées et tout, et ces femmes, c'est avec leur consentement. Donc, de l'autre côté, ils voient quand même, ça participe aussi à visualiser, en fait, visualiser pas de la bonne manière, mais de l'autre manière, en fait, toutes ces violences, en fait, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas, est-ce que tu vois le truc, en
ouais,
fait
ouais, donc, ce que tu veux dire.
Donc, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, à ma position, c'est un petit peu compliqué pour moi, puisque... Du moment que c'est dans leur consentement, est-ce qu'on peut parler de violence, en fait ?
Mais est-ce que tu parles de libre arbitre ? C'est genre le fait qu'elles, en gros, elles sont assez grandes pour décider d'être mannequin et de poser en maillot de bain, par exemple ?
Oui. Ouais. Est-ce que là, dans ce cas, est-ce qu'on peut parler, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de non-consentement ? Est-ce qu'on peut parler tout simplement des images qui choquent ou pas, en fait, tu vois ?
Je pense que ces femmes, elles sont tout à fait consentantes et elles font ce qu'elles veulent de leur corps. En revanche, moi, ça m'interroge que pour vendre une voiture, on ait besoin de mettre une femme dénudée.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis un homme, que j'achète cette voiture, je vais pouvoir pécho des femmes qui ressemblent à des mannequins, d'ailleurs qui ressemblent à personne dans notre société, hein, parce que je vous rappelle que la taille moyenne en France des femmes, c'est le 42, donc la mannequin qui fait du 36, elle n'existe quasiment pas. Et du coup, qu'est-ce que ça dit aux hommes ? Ça dit, achetez cette voiture, ça vous permettra de choper des super belles meufs, parce que les meufs, elles sont vénales, parce que ce qui les intéresse, c'est la taille de ta bagnole. Sous-entendu, la taille de ton sexe.
Moi, je me dis, est-ce que ces femmes, ils participent pas?
Il y a un côté objectifiant quand même.
Elles participent pas à l'augmentation de, en tout cas, de ces violences-là invisibles, en quelque sorte, en fait.
Alors, ces femmes-là, non, elles participent à rien. En revanche, les gens qui ont fait 5 ans d'études de marketing pour nous pondre des pubs par rêve, pareil, oui, pour moi, ils participent à l'objectivisation du corps des femmes dans notre société.
Ouais, parce que là, c'est prendre peut-être... je comprends. Après, c'est toujours intéressant avec Sana, mais tu as des vraies conversations. Je vois ce que tu veux dire. Après, ce serait un peu retourner quand même le truc où dire cette mannequin parce qu'on la sexualise, c'est un peu sa faute, tu vois, parce qu'elle participe à un truc. Quand en soi, en gros, l'idée de la sexualisation, c'est intéressant, c'est que moi, je peux choisir de me mettre nue, je peux choisir de poser nue en tant que mannequin ou pas, je fais ce que je veux. Mais après, c'est les autres qui me sexualisent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est un regard quand même extérieur qui vient te sexualiser.
Ça dépend de comment on l'interprète, en fait, l'image. Parce que c'est une image, chacun peut l'interpréter à sa manière, tu vois.
C'est sûr,
mais du moment qu'on parle du consentement, c'est consenti. Moi, je pense, selon la loi, du moment qu'il y a consentement, il n'y a pas de violence, en fait.
Non, mais après, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, on parle de violence, mais peut-être au sens large. Mais effectivement, la sexualisation des femmes, le fait que tu vois que nous, on soit vus à travers un spectre qui est très sexualisé, très sexuel, très, au pire, de la beauté même, tu vois. Qu'une femme, il faut qu'elle soit belle. Si elle n'est pas belle, ça va être chaud pour elle,
Ça, moi, je pense que les femmes devaient refuser ça maintenant, actuellement, les stades où nous sommes, quoi, tu vois. Pourquoi, en tout cas, pour qu'on puisse gagner ce combat-là. Je ne sais pas, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que ce n'est pas la bonne, mais... Voilà, je sais pas, Liam, toi, t'en penses quoi, en fait?
Par rapport à quoi?
Le fait que, qu'ils mettent des publicités, c'est un exemple, hein, où, par exemple, c'est que Florian, il vient de dire, tu vois, on achète pour vendre une voiture, on est obligé de mettre une femme dénudée et tout. Bon, c'est vrai, il y en a, on n'interprète pas l'image de la même manière. Il y en a qui peuvent dire, comme tu l'as dit, hein, ils voient, bon, tu achètes la voiture, tu vas pécho une fille comme la voiture et tout, tu vois. Et alors que la fille qui a décidé de faire cette publicité-là, c'est avec son consentement. Est-ce que, dans ce cas, on peut parler de violence? Je ne sais pas, moi, tu vois, c'est ça le truc.
Alors, je t'avoue, je ne me suis jamais posé la question par rapport au mannequin en soi. Je me suis plutôt posé la question par rapport à la manière dont le marketing est fait et avec lequel il privilégie le male gaze, tu vois. Mais bon, par rapport... Je ne pense pas que les mannequins participent aux violences. Enfin, je ne sais pas si c'est...
Non, mais ça, c'est... Je sais pas. En tout cas, ça, même si ça ne participe pas, ça permet... Je sais pas. Tu vois, c'est comme tu l'as dit, Florian. Moi, j'ai dit, la voiture, je l'achète, je vais pécho ce soir. Tu vois, c'est mais je sais pas. Si on part de ce constat-là, en fait, tu vois. Donc, je me dis, ces femmes, elles participent aussi. Tu vois
Après... Ouais, pardon, vas-y.
Ouais.
Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est... Je sais pas.
Moi, je pense quand même que dans une société capitaliste, quand même, rappelons-le, dans une société capitaliste où on met l'importance sur le statut économique et sur l'argent, je trouve que c'est compliqué en fait de reprocher à une mannequin, au pire elle, d'utiliser son corps, sa beauté, voire sa sexualité pour son propre gain. C'est-à-dire que toi, t'es ok à ce que, et depuis des millénaires, les hommes et toute la société utilisent les femmes pour leur gain, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail ou que ce soit pour faire des pubs avec des meufs pour vendre des machines à laver. Mais tu vois, et après c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on le voit avec que ce soit les OnlyFans ou ces trucs-là où du coup t'as des femmes qui peuvent être indépendantes et qui peuvent, que ce soit mannequinat ou du travail du sexe, utiliser en tout cas leur corps. Et du coup on va un peu les juger ou les critiquer. Mais moi je trouve ça intéressant qu'on les critique à partir du moment où c'est elles qui décident, elles font comme elles veulent et elles récoltent leur propre argent. C'est intéressant, quoi.
Ouais, moi, je pense que c'est comme ça. Les mannequins, ils font ce qu'ils veulent, ils récoltent leur argent, quoi, en fait.
Ouais, voilà. Et donc, je comprends dans ton délire de défense, ça, ok. Mais c'est plus le fait... Mais tu vois, c'est trop intéressant. Parce que la dernière fois, je faisais une intervention, justement, à Voiron, avec des jeunes, là, un peu en décrochage. Et en fait, on parle du concept de sexualisation. Et les jeunes, là... C'était marrant, d'ailleurs, s'ils m'écoutent. et ils disent, ouais, mais comment, nous, les hommes, on peut être sexualisés? On n'a pas de seins, on n'a pas de fesses. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que tu vois, c'est vraiment tellement, t'es dans ton spectre d'homme que t'as même du mal à comprendre qu'on puisse, tu vois, par exemple, je lui dis, mais t'as jamais regardé, je sais pas moi, rien que du contenu gay. Enfin, ils ont pas de mal à sexualiser les hommes. Oh non, jamais regardé ça, machin. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est ce truc-là où des fois, je pense que, voilà, on est peut-être trop dans son spectre genré, ta vision peut-être d'homme, tu vois, où toi, tu vois pas où est vraiment le problème parce que peut-être tu te rends pas compte à quel point on a sexualisé les femmes par rapport aux hommes. C'est vrai que tu trouverais ça ridicule de mettre un mec torse nu pour vendre, tu vois ce que je veux dire, pour vendre n'importe quoi en fait, à part un slip ou du parfum. Non mais c'est vrai, ce serait débile quoi, tu serais là mais c'est carrément, c'est même chelou, c'est risible, ce serait drôle tu vois. Mais c'est la même chose qu'entre un mec qui monte ses fesses et une meuf qui monte ses fesses. Mm-hmm. Une meuf qui monte ses fesses c'est sexuel, un mec qui monte son cul c'est rigolo.
Non, il faut que ça soit au même pied d'égalité hein, en tout cas.
Oui mais là tu vois comme on n'y est pas encore, forcément il y a ce truc où tu peux dire ah ben voilà ils choisissent de sexualiser les mannequins femmes. Donc elles après elles acceptent parce que bah, elles font leur carrière et que de toute façon c'est quand même grosso modo le rôle qu'on va leur donner. Ça me dérange pas, mais après effectivement c'est qui décide de faire ces pubs là, qui dit encore en 2025 ah bah oui on va mettre pour la fête des mères promo sur les poubelles. Ouais, ouais. C'est factuel en plus, tous les ans il y a des trucs comme ça.
Mais
ça,
Liam il a posé une question très intéressante. La culture, est-ce que ça contribue à tout ça, l'éducation familiale et tout? Je sais pas, je pense à Florian, toi qui es professionnel dans ce truc là, sincèrement aujourd'hui tu penses qu'on a besoin de quoi en fait, ou qu'est-ce qui manque vraiment quoi pour la prévention de toutes ces violences-là?
Eh bien, il manque qu'en France, on a des lois et il manque qu'on les applique. on a tout ce qu'il faut. Mm-hmm. Et en fait, si on appliquait les lois et qu'on éduquait les jeunes garçons et les jeunes filles à la vie sexuelle et affective, et notamment des plus jeunes à ce que c'est la question du consentement, mm-hmm. notre société se porterait beaucoup mieux.
Ok. Donc, on doit commencer à bas âge, genre, pour éduquer. Est-ce que...
Au plus tôt, à mon avis, tu vois, si dès l'école maternelle, on apprenait aux enfants, bah, notamment à dire non, mm-hmm. à avoir conscience de leur corps, que leur corps leur appartient et qu'on n'a pas droit d'imposer à ce corps des choses dont on n'a pas envie. Faire un bisou à la grand-tante qui pique, mm-hmm. par exemple. Si un enfant n'a pas envie de le faire, ben, moi, je trouve ça très OK si on apprenait dès le plus jeune âge que notre corps nous appartient, qu'on peut rien imposer à ce corps sans notre consentement, et ben on s'éviterait un bon nombre de problèmes. Et puis je pense qu'il faut éduquer autrement les petits garçons. Enfin tu vois, on peut pas dire aux petits garçons un garçon ça ne pleure pas. On fait des garçons qui du coup sont totalement déconnectés de leurs émotions. Enfin pourquoi un garçon n'aurait pas à pleurer? Je vois pas d'explication rationnelle à ça. Donc si on éduquait les enfants au rapport au corps et au rapport aux émotions, je pense que notre société irait bien mieux. On s'éviterait un bon nombre de violences sexistes et sexuelles.
D'accord, très intéressant. Mais par exemple, est-ce que tu as un message parce que ça, c'est... Moi, j'ai vu beaucoup de discussions là-dessus sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, ils ont dit, je sais pas si c'est l'école maternelle, ils vont commencer... À étudier, tu vois, tout ce qui est... En tout cas, ils vont leur mettre dans tout ce qui est sexualité, tu vois, ils vont commencer à étudier. Mais il y a certains parents qui ne voulaient pas du tout, qui voyaient ouais, ça comme... Contre, voilà, qui sont contre. Est-ce que tu as un message pour ces parents-là?
Ces parents, ils ont probablement un peu trop scrollé les réseaux sociaux sur lesquels il y a beaucoup de désinformation. Je me souviens que la désinformation principale, c'était qu'on allait apprendre aux enfants de maternelle à se masturber, ce qui n'est absolument pas vrai. On n'aborde pas la sexualité avec des enfants de maternelle. En revanche, on faisait exactement ce que je dis, on leur apprend le consentement et on leur apprend à dire non quand il y a des choses qui les gênent.
Ok, ouais, je vois.
Ce qui est quand même c'est clair un peu différent. C'est quand même très différent.
Mais il y a plein de réseaux, notamment des réseaux masculins, qui sont emballés sur les réseaux sociaux et qui ont diffusé énormément d'informations fallacieuses. Et on est tous d'accord qu'il ne faut pas apprendre à des enfants de 3 ans à se masturber. Enfin, ça n'a aucun sens et personne n'a jamais dit ça.
Ouais, il y a un côté politique pour moi aussi, malheureusement, c'est que ces débats-là, ces causes qui devraient être quand même plus ou moins universelles, on arrive à un délire un peu politique. Ou aujourd'hui, voilà, dire qu'il faut peut-être apprendre au vu des chiffres de pédocriminalité et de victimes en France aux enfants le consentement, on en vient à un truc, ouais, c'est la gauche, c'est les wokistes, ils veulent faire n'importe quoi. Alors qu'à un moment, c'est quand même ridicule qu'il n'y a pas d'histoire de parti politique, de bord politique pour en ce qui est protéger les enfants ou les violences faites aux femmes. Et ça, je pense que c'est aussi un frein quand même, parce que comme tu dis, tu as énormément de désinformation et le fait que nous, les gens qui nous représentent, et qui devraient bien nous représenter, bah voilà, et parfois tu vois bien que c'est plutôt leurs intérêts et comment vote tel ou tel parti que des choses qui devraient être juste logiques, quoi. Faut pas de débat.
Est-ce que vous pouvez me parler des conséquences sur la santé des victimes de VSS ?
Oui, alors les quelques grands chiffres peut-être pour commencer. Les violences sexistes et sexuelles, elles ont des conséquences graves et durables sur la santé. Il y a un certain, ça c'est pas moi, Floriane, qui le dit, hein, c'est des études scientifiques, notamment des études américaines, qui disent plein de choses, mais la statistique la plus intéressante, c'est qu'il y a une étude qui s'appelle l'étude Felitti, ceux que ça intéresse vous laisserez googler, qui dit qu'avoir vécu des violences sexuelles pendant l'enfance, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. Donc 20 ans. Et en fait, avoir vécu des violences sexuelles pendant l'enfance et n'avoir eu aucun accompagnement spécialisé, ça nous fait perdre 20 ans d'espérance de vie parce qu'il y a un certain nombre d'impacts de ces violences sur les sphères de la vie des personnes, à la fois sur la sphère physique, somatique. Les personnes qui ont vécu des violences sexuelles ont, par exemple, des douleurs chroniques. Les femmes qui sont victimes de violences sexuelles ont très souvent très très mal dans la sphère génitale, ont aussi des douleurs dans le dos. Donc c'est des gens dont la vie est douleur. Des conséquences sur la sphère comportementale, notamment avec le syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui, on sait... ça, c'est toujours pas moi qui le dis, c'est la science, que les personnes qui vivent des violences sexuelles ont un syndrome de stress post-traumatique similaire à celui des soldats qui vont à la guerre, voire pire. Parce que quand c'est mon père qui m'impose des violences, c'est plus grave que quand c'est un soldat ennemi que je ne connais pas et avec qui je lutte pour des considérations politiques. Quand c'est mon père qui cherche à me détruire, ça me détruit encore plus. Ouais, et donc, vrai. On a des gens qui ont un certain nombre de symptômes. Je ne sais pas si vous avez vu le film American Sniper, ça se fait un peu vieux. Mais en gros, c'est le soldat qui rentre de guerre et il est insupportable, il tape sa femme, il se met à picoler, il a des cauchemars. Et ben c'est ça le syndrome de stress post-traumatique, c'est qu'on a des gens, il suffit d'entendre un bruit ou une odeur qui va réveiller le souvenir traumatique. Et ces personnes, elles vont vivre l'agression qu'elles ont vécue, mais vraiment comme si elles y étaient. Donc je vous laisse imaginer, vous bossez tranquillement derrière un écran, d'un coup il y a un bruit qui vous rappelle l'agression que vous avez vécue, et vous allez revivre, alors que vous êtes en plein milieu d'un open space, l'agression sexuelle que vous avez vécue il y a 10 ans. Donc c'est quand même très très compliqué à vivre. Donc voilà, c'est vraiment des violences qui ont des conséquences sur l'ensemble des sphères de la vie des personnes et qui rendent vraiment leur vie impossible. C'est très difficile d'avoir un travail quand on a un syndrome de stress post-traumatique.
Et comment vous faites à la Maison des Femmes pour accompagner ces victimes-là ? Comment vous les aidez concrètement ?
Alors, à la Maison des Femmes, c'est une unité de soins du CHU. Et en fait, on va proposer aux femmes qui vivent ou ont vécu des violences, j'utilise pas le mot victime, tout simplement parce qu'il y a plein de personnes qui vivent des violences et qui se reconnaissent pas forcément en tant que victimes, ou qui en ont vécu dans le passé et qui se reconnaissent pas sous ce terme. Elles se disent plutôt qu'elles ont vécu des violences à un moment ou à un autre. Et donc, nous, on va les accompagner, on va les prendre en soin dans un parcours global. On va vraiment travailler avec elles toutes les conséquences des violences sur leur santé, mais pas que. Donc on va notamment travailler ce syndrome de stress post-traumatique, puisque le stress post-traumatique, c'est horrible, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Ça fait depuis la guerre du Vietnam que les médecins cherchent des solutions pour soigner ce stress post-traumatique. Donc on va prendre ça en soin, notamment en faisant ce qu'on appelle de la psychoéducation. La psychoéducation, c'est rendre le malade expert de sa propre maladie. Et donc, en fait, quand on explique aux femmes, par exemple, ce syndrome de reviviscence que vous avez quand vous entendez un bruit et que vous revivez l'événement traumatique, en fait, vous n'êtes pas folle. C'est normal dans le syndrome de stress post-traumatique. Donc, un, c'est normal, vous n'êtes pas folle. Et deux, vous n'êtes pas toute seule. Ouais. Toutes les personnes qui ont un syndrome de stress post-traumatique et qui vivent des violences ont ces symptômes-là. Donc, vous n'êtes pas folle, en plus vous n'êtes pas seule, c'est déjà 50% du travail. Donc on va bosser là-dessus, on va bosser pas mal sur tout ce qui est de le champ du corps, puisque le corps est vraiment marqué par l'événement vécu. Et donc on, tu vois, pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, etc., on va bosser tout ce qui est le champ du psychocorporel avec des kinés, du yoga, plein de choses. Et bien évidemment, on va travailler avec elle la sphère du social et du juridique, parce qu'il y a des personnes qui ont des besoins de mise à l'abri, tout simplement. Elles ne peuvent plus rester chez elles parce qu'elles sont en danger de mort. Donc on va travailler avec des associations partenaires plurielles et Rialto Issues de Secours pour les mettre à l'abri d'une façon ou d'une autre, souvent dans des foyers d'hébergement d'urgence, mais ça peut être à l'hôtel, ça peut être chez des tiers. Et on va aussi travailler la sphère du juridique, puisque quand il y a des enfants notamment, ou quand il y a des contrats du type le mariage, bon bah voilà, il va être nécessaire de bosser sur le divorce et sur qui va garder les enfants.
Ça fait beaucoup, quoi.
Ça fait beaucoup de choses à travailler. Et c'est, en fait, c'est super important qu'il y ait un parcours global. Ça ne sert à rien de bosser l'aspect juridique. Si on, enfin, non, pas, ça ne sert à rien, mais c'est beaucoup moins efficace si on bosse un seul aspect que si on bosse tous les aspects en même temps. Ouais. Et donc, en fait, elles viennent chez nous pour des motifs multiples. Hein. Ça peut être de la violence dans le couple, ça peut être des violences sexuelles, beaucoup d'inceste, les mutilations génitales féminines aussi, les personnes qui ont des problématiques d'excision. Elles viennent chez nous, elles restent entre un an et demi. Et elles ont un parcours où elles vont voir un certain nombre de professionnels sur tous les champs que je viens de citer. Et notre objectif, c'est de leur donner les clés pour se reconstruire et reprendre une vie normale en dehors du champ des violences.
Est-ce que, Floriane, comme tu travailles dedans, depuis que tu as commencé, est-ce que tu vois que la situation, ça se diminue ou ça s'empire? Il y a plus de victimes, bon, pas des victimes, mais les gens qui ont subi des violences qui viennent chez vous là-bas. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou depuis que voilà, maintenant actuellement quand même on en parle plus qu'avant, tu vois. Est-ce que ça a permis de freiner un peu?
C'est une question difficile. C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que il y a plus? C'est ce qui est certain, c'est que les forces de sécurité, donc le ministère de l'Intérieur, enregistre chaque année plus de plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus ou est-ce que ça veut dire que la parole est libérée et qu'on les écoute surtout? Puisque les femmes, elles ont toujours parlé, ça fait 2025 ans qu'elles parlent, mais personne ne les a jamais écoutées. Okay. Et peut-être que moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a plus de violences sexistes et sexuelles. Enfin, j'espère pas, j'ai pas envie de croire ça. Peut-être que je crois ce qui m'arrange. Je pense juste que la société les écoute. Okay. Et ce qui avant restait dans les familles, ce qui était une honte, etc., bah, maintenant on en parle et la preuve, on est là. Je ne sais pas s'il y a 30 ans, on serait venu pour parler de ça. Donc merci de l'invitation.
Et toi, tu penses que les médias, hein, comme les radios locales, là on est, tu l'as dit, on est sur Radio Campus, News FM. Quel rôle vraiment ils peuvent jouer dans cette sensibilisation-là?
Eh bien, donner la parole aux acteurs de terrain, donner la parole aux femmes concernées, à ceux qui bossent sur ces sujets-là, c'est déjà super important. Et puis, je pense qu'on a tous, en tant que citoyens, on doit tous être vigilants. Par exemple, on parlait de la femme qui fait vendre des voitures. Ça, c'est un stéréotype. Mmh. Et on doit tous être vigilants à, par nos paroles, ne pas véhiculer des stéréotypes et ne pas contribuer à ce continuum des violences ou à ce que moi j'appelle la culture du viol. Je pense que chacun, on doit faire attention à nos mots et surtout on doit travailler sur nous-mêmes parce qu'on est tous emprunts de préjugés. Il y a l'inné, il y a l'acquis et l'acquis c'est notre culture et notre culture n'est pas parfaite. Donc c'est à nous de travailler sur nous-mêmes en tant qu'individus et à faire attention à véhiculer des paroles qui respectent les femmes mais aussi les minorités de genre.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on reprenne sur un autre sujet.
Come on, here we go. You and I, we gotta let time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all of that gots to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me, bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said,
who you calling me, bitch?
U-N-I-G-Y. Days at work, if you an attitude and you were rough, and take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had, and I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting.
Et nous sommes toujours sur Radio Campus Grenoble, et maintenant nous allons parler de des VSS hors du cadre conjugal dans les cercles amicaux, familiaux, et de son invisibilisation.
Un beau programme.
Un bon programme. On va aussi parler de la banalisation des violences venant des hommes, et aussi de la banalisation de certaines paroles violentes. J'ai une première question à vous poser, c'est des violences qui, quand elles sont dans le cadre amical ou familial, c'est des violences qui viennent de personnes qui sont proches. Et est-ce que ça veut dire qu'on doit se méfier de, est-ce qu'on doit se méfier de tout le monde?
C'est une bonne question. Ouais. Moi, je dirais que c'est vrai que c'est intéressant de parler de tout ça parce que ça déjà, ça vient un peu contredire la vision qu'on a pas mal des méchants. Voilà, dans la pop culture, notamment dans nos contes d'enfance, c'est le grand méchant loup, c'est une personne qui est extérieure à nous et qu'on ne connaît pas. Et donc, bah, c'est logique de s'en méfier parce qu'on ne la connaît pas. Or, bah, voilà, Floriane pourra en parler avec plus de détails, mais souvent, c'est plutôt l'inverse, en fait. Et c'est vrai que c'est les gens qui sont les plus proches de nous, au sein de notre famille, nos collègues, nos conjoints énormément, qui sont les plus à même de nous mettre en danger. Et c'est vrai que c'est triste de savoir que pour une femme, l'endroit le plus dangereux, bah, c'est la maison. C'est-à-dire quand même l'endroit à laquelle on l'a confiné. Quand on y reste à la cuisine, mais en plus, c'est là où tu... Enfin bref, c'est pas très cool. Donc l'idée là aussi de cette conversation, c'est de mettre en lumière le fait que on parle énormément de violence conjugale. Évidemment, c'est très important, comme le disait Florian, parce que c'est aussi la majorité, en tout cas, hein, une grosse, grosse partie des violences faites aux femmes. Mais nous, l'idée aussi, et en tout cas, nous, ce qu'on fait avec Patriarchie, c'est un peu essayer d'aller vraiment à la racine. C'est-à-dire, avant qu'on en arrive à des situations de violence, de viol, etc., comment c'est d'installer tout ça, en fait. Donc, on parlait tout à l'heure, parler de consentement, c'est important. Faire de la sensibilisation, c'est important. Et c'est vrai que c'est important de s'intéresser à qu'est-ce qui nous amène à cette situation de violence très concrète. Et du coup, on va pouvoir en parler avec Florian. Notamment, ça commence pas mal dans l'enfance, dans la famille, voilà, dès le plus jeune âge, on peut être victime de violences et du coup, on peut normaliser les violences. Et on sait aussi que il y a cette idée de personnes qui ont déjà été victimes ou violentées qui ont plus de chances aussi après d'être prises pour cible par des prédateurs. Donc c'est aussi un cercle vicieux, quoi.
Ouais, et puis si on veut répondre à pourquoi est-ce que les violences sont à la fois banales et invisibles dans nos sociétés, bah c'est difficile de répondre à cette question, mais il y a une hypothèse que moi je trouve intéressante, qui n'est pas mon hypothèse, mais c'est l'hypothèse qui est posée par une anthropologue que je vous invite à googler, qui s'appelle Dorothée Ducy. Mais elle dit en gros que les violences dans la famille, et notamment l'inceste, posent la base d'une structure sociale de domination, de genre et de classe. Et en fait, elle a passé des années à étudier ce sujet. Elle a réussi à collecter des chiffres et elle estime qu'en France, c'est à peu près 10% des Français qui subissent de l'inceste. Enfin, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
Et nous avons sur une classe de CM1, on estime que c'est à peu près 3 enfants qui vivent, qui ont vécu ou qui vivront une situation d'inceste. Donc c'est moi quand j'ai découvert cette statistique, ouais, ça énorme. A vraiment bouleversé ma façon de voir le monde. Quand tu vois une classe, devant toi, tu as 30 élèves, il faut que tu trouves les 3 qui vivent de l'inceste. C'est vraiment énorme et c'est un chiffre qui est très peu connu. Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait énormément d'enseignants de l'éducation nationale qui connaissent ce chiffre. Et ces 3-là, ça peut être les plus turbulents, par exemple.
Et il me semble que c'est le berceau des dominations qu'elle a écrit.
C'est ça.
Ouais, si le sujet vous intéresse, je vous invite à le lire.
Ouais, c'est vraiment un super livre qui, en gros, va nous dire que l'inceste va apprendre aux petites filles et aux enfants en général quelle est leur place. Et leur place, c'est être dominée et répondre aux besoins, notamment, non, je dirais pas besoins, oulala, je me reprends tout de suite, aux désirs, aux envies, je sais pas comment le qualifier, des hommes. Voilà, parce que, qu'on soit bien clair, l'inceste ne relève pas ni d'un désir, ni d'un besoin sexuel ou je ne sais quoi, ni d'une misère sexuelle. Ça n'a rien de sexuel, c'est la volonté de dominer et de détruire l'autre. Et on peut se dire, ils sont quand même excités sexuellement, etc. Ce qui les excite, ce n'est pas la sexualité, c'est le fait de dominer et de détruire l'autre. Et donc, ce que nous dit Dorothée Ducis, c'est que l'inceste, ça va, organiser le silence, donc l'invisibilisation des violences dans notre société, puisque bien évidemment, on va apprendre à l'enfant à ne pas parler de ce qu'il vit d'une manière ou d'une autre, et que cet inceste va créer le terreau favorable à la domination masculine, puisque les chiffres le disent aujourd'hui, les agressions sexuelles envers les enfants, c'est en grande majorité contre des petites filles. Alors il y a aussi des petits garçons qui sont victimes, il y en a énormément, mais c'est quand même majoritairement contre les petites filles. Donc on va apprendre aux petites filles que vous êtes un objet à disposition des hommes et il ne faut pas en parler. Puisque qu'est-ce qui se passe si vous en parlez ? Potentiellement, on ne vous croit pas, on vous dit que vous êtes une menteuse, vous êtes ostracisée de la famille. On apprend vraiment aux petites filles qu'il faut garder ça pour soi. Moi je suis assez partante de cette hypothèse. Je pense vraiment que l'inceste a un rôle fondamental dans notre société, qui est celui de maintenir les femmes sous le joug de la domination masculine.
Des trucs qu'on retrouve aussi, alors sans aller jusqu'à l'inceste, mais quand tu vois dans les cours d'école, on normalise énormément de violences faites aux petites filles qu'on retrouve au collège, du type il te tire les couettes parce qu'il t'apprécie, il soulève ta jupe parce qu'il est amoureux de toi. Enfin, je veux dire, qui s'est jamais fait tirer les bretelles de son tien-gorge au collège, et les profs, ils vont te dire arrêtez de vous chamailler. Alors qu'en vrai, c'est quand même vraiment normaliser des choses, et tout ça, en fait, ça fait partie de cette culture du viol où toi, t'intègres que aujourd'hui, il y a encore des gens dans des établissements scolaires où tu n'as pas le droit de t'habiller de telle manière parce que tu risques de déconcentrer tes camarades de classe masculins. Ce qui est dingue.
C'est dingue de
dire ça à une enfant. Tu intègres, et moi la première. C'est pour ça que moi, je suis très ravie de cette vague féministe, parce que c'est ça qui te permet aussi de savoir, de déconstruire des choses. En fait, c'est pas normal. En fait, c'est pas moi le problème parce que mon corps il ressemble à ça ou etc. C'est à eux qu'on devrait apprendre. Mais en fait, non, tu regardes pas, ça reste une personne, le respect et des valeurs qui devraient être normales, quoi.
Et puis, pour moi, c'est red flag à partir du moment où on minimise, où on banalise des violences, mais aussi petites soient-elles, c'est ça en fait qui permet aux violences les plus graves d'exister. Si on permettait pas aux petits garçons en toute impunité de lever et de regarder sous la jupe des filles, en fait, le reste des violences ne serait pas permis non plus.
Exact, et tu vois, c'est quoi, c'est Alain Souchon sous la jupe des filles. Enfin, tu vois, il y a ce truc, tu vas écouter France Inter dimanche après-midi avec ta famille, Alain Souchon tranquille qui te dit, où est la plupart des mecs de sa génération qui faisaient de la musique, elle avait 14 ans, elle était si belle, on était amoureux. C'est fou. Et en vrai, tout ça, c'est des trucs, quand tu vas dire, les gens disent, ça va, c'est bon, c'est bon.
C'est que de la musique.
C'est que de la musique. Ça, mais okay. C'est ça, mais comment on a appris l'amour, comment on a appris la romance, si c'est pas à travers la musique et les films, etc. Des poèmes, et en fait, on se rend pas compte à quel point on véhicule énormément de messages, en fait, à travers ça. Et oui, moi, je pense pense que si au collège on m'avait dit non, en fait c'est n'importe quoi, il a pas à faire ça, moi je pense que j'aurais eu un rapport aussi différent à moi-même, à mon corps, à ce que j'ai le droit de faire, ou à qu'est-ce qui est ma faute, tu vois, honnêtement.
Ouais, en tout cas, c'est très intéressant. Moi, il y a plein d'idées là qui tournent dans ma tête à travers tout ce que vous avez dit. Parce que tout à l'heure, moi, je reviens en arrière un petit peu. Tu as parlé de l'étude américaine, là, tu vois, les femmes qui sont victimes de violences, ils ont 20 ans de moyenne d'espérance de vie. Et les femmes qui sont victimes de l'inceste.
Eh bien, c'est ça. C'est justement c'est quand il y a... C'est 20 ans d'espérance de vie en moins pour les violences sexistes. Non, pardon, les violences sexuelles pendant l'enfance. Donc c'est ça en fait, c'est l'inceste. Généralement, l'inceste est 20 ans d'espérance de vie en moins. Mais attention, hein, ce n'est pas une fatalité. Oui. C'est quelque chose qui, avec une prise en soin, peut être corrigé.
Ok, bon, c'était ça ma petite question.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? On arrive doucement sur la fin de cette émission.
Bah, merci. Merci de nous avoir invités. Merci, comme on disait, voilà, de prendre un peu du temps et de parler un peu de ces choses-là. Effectivement, je pense que c'est important que voilà, peut-être des gens qui nous écoutent peut-être se rendent compte de ces sujets-là. Peut-être que c'est des sujets qui ne sont pas évidents, qu'on n'a pas forcément. Et je pense que ça participe énormément au fait qu'on n'en parle pas, c'est que ça met tout le monde mal à l'aise.
L'inceste, ça casse l'ambiance.
Voilà, c'est pas le truc en soirée. Voilà. Et pourtant, c'est vachement important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ces choses-là et de savoir qu'ils peuvent aller à la maison des femmes, ils peuvent retrouver Floriane là-bas. Et qu'elle peut, vous aider, vous accompagner, et que vous n'êtes pas tout seul, quoi.
Alors moi, j'accompagne personne,
mais elle est là
personnellement. Mais oui, la maison des femmes est ouverte. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir. Nous, on est des boumeuses avec Pauline, mais ceux qui nous écoutent sont plus jeunes. À la maison des femmes, on a un tiers des personnes qui viennent chez nous qui ont moins de 25 ans. Donc tout le monde est bienvenu.
Est-ce que vous avez des prochaines actions ou pas que vous préparez ?
Non, on est très occupés à prendre en soin les femmes. En fait, on fait de la prise en soin et on fait aussi beaucoup de formation des professionnels, donc on est très occupés.
Et pour Patriarchie ?
Nous, en décembre, je suis conférencière désormais. Donc j'ai une conférence qui s'appelle « Art, féminisme et le zizi sur le pare-brise ». Que je vous conseille d'aller voir au paradis. Sénat, comme d'hab, il m'a regardé là. Qu'est-ce que c'est encore ? Mais tu vois, maintenant, t'as peut-être envie d'aller.
Donne envie d'aller voir ça.
Quoi. Voilà. Donc, ce sera au paradis le 17 décembre. Okay. Voilà. Petite conférence. Sympa.
Très intéressant. Manquez pas ça.
Merci à vous. Merci, merci à toi, Pauline. Merci à toi, Floriane. Et Sana, merci à toi aussi.
Yeah, merci. En tout cas, ça a été un plaisir à l'occasion de cette grosse journée quand même. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est tous les jours en fait.
C'est ça, ça.
Merci pour ce mot de la fin.
Et merci à toi, Zoé, la technique.
Merci, Zoé.
Et à nos deux stagiaires.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.